Donc bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Fréquence Mauge et nous sommes à la boulangerie de Fonda à Saint-Laurent-du-Motet. Et donc je me présente, je suis Baptiste, animateur jeunesse au sein du centre social et on a comme projet de partir dans chaque commune de Mauges-sur-Loire. Donc on a pu faire en premier Saint-Laurent, le Ménil-en-Vallée, puis Saint-Laurent-du-Motet. Et donc aujourd'hui je suis avec...
Nicolas Charrier, je suis actuellement donc service civique au centre social, au centre social à Meaux, je suis de la maison. Et je viens en tant que représentant de mon propre travail, à savoir ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de réseaux sociaux, des médias et de la comparaison qui se fait très souvent entre les médias sociaux et les médias traditionnels.
Voilà. Et voilà. Et ensuite nous avons...
Donc Yannick Bonnoine, moi je suis un habitant de Saint-Laurent-du-Motet, je suis aussi élu et adjoint délégué de la commune de Saint-Laurent-du-Motet. Donc l'objectif de l'intervention, c'est de parler aussi de Saint-Laurent-du-Motet et le lien avec la partie internet multimédia. Je suis aussi dans la commission communication de Mauges-sur-Loire et je suis aussi formateur enseignant à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
Donc ça donne pas mal de casquettes. Donc on va pouvoir partir sur un sujet que Nicolas va nous parler, donc de sa chaîne YouTube.
Ouais.
Et en fonction, on va pouvoir intervenir si on a des choses à demander ou des choses à comparaître.
Donc du coup, quel aspect veux-tu, tu veux que je parle?
Présente généralement ta chaîne YouTube, l'objectif de ta chaîne en...
Moi, chaîne YouTube aujourd'hui, c'est 45 petits abonnés. C'est vraiment un tout petit cocon au milieu de l'immensité d'Internet. Et donc à la base, le projet, c'était surtout, je voulais créer une chaîne pour faire du documentaire sur Internet. C'était quelque chose que je trouvais qui me manquait beaucoup, notamment sur YouTube. Mais du documentaire au sens propre du documentaire Arte ou France 5, pouvoir proposer du contenu travaillé, et bien étudié, de l'analyse, tout ça sur Internet. Donc j'ai lancé une première série de petits reportages qui a plutôt bien marché. Je crois que j'étais à 300-400 vues, donc j'avais quand même un petit public dessus. Et puis je me suis dit un jour, il faudrait peut-être qu'avant de proposer du gros contenu, il faudrait commencer par quelque chose de plus petit. Donc à partir de septembre, via mon service civique qui me laissait un peu plus de temps, je me suis lancé dans un projet de chronique vraiment face cam, c'est-à-dire typique de tout ce qui se fait déjà sur YouTube, à savoir le regard face caméra, la mise en scène de différents personnages, de l'utilisation de la voix off et tous ces codes qui parlent plus à un public adapté sur Internet. Donc dessus, on parle... La chronique répond à une critique qui se fait souvent entre les médias traditionnels, c'est mieux, les réseaux sociaux, c'est moins bien, ou inversement. C'est-à-dire que les gens ont tendance à vraiment les séparer parce que d'un point de vue structurel, c'est vraiment différent. Mais je pose pas d'échelle de valeur dessus, en fait. C'est surtout ça. Je dis par exemple que... YouTube, on peut dire ce qu'on veut sur le fait que c'est plus... Enfin, ce que ma génération a tendance à dire, que YouTube est mieux que la télé, chose que je ne pense absolument pas. Il y a autant de... Tu m'excuses le terme, de caca sur Internet qu'à la télévision. Et l'idée, c'est de le montrer, quoi. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'une je me suis donné un rythme de 2 épisodes par mois. Donc, c'est-à-dire une chronique toutes les 2 semaines. Sachant que ça demande un travail de recherche parce que je m'appuie sur des travaux universitaires que je récupère sur des sites, des portails que j'ai récupérés via mon cursus en université. Et l'idée, c'est d'ingérer toute cette information pour la vulgariser, entre guillemets, et essayer de simplifier ça, même si on passe à côté de pas mal d'informations. Mais l'idée, c'est que ça soit accessible un peu au plus grand nombre. Voilà.
Et moi, j'aurais une question, c'est... Tu proposes des choses sur Internet, mais comment l'habitant, par exemple, de Saint-Laurent-du-Motet, comment il peut te trouver, accéder à ton contenu? Je dirais qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils vont chercher un journal, ils vont chercher le Courrier de l'Ouest, Ouest France, le Parisien. Lorsqu'ils vont regarder la télé, ils vont taper sur la 1, la 2, la 3, la 24 et la 25. Mais par rapport à Internet, quel est le moyen de te trouver? Quel est le moyen d'essayer de construire son analyse comparative?
C'est-à-dire de, le moyen de se faire reconnaître.
Oui, ou bah, par exemple, voilà, suite à ce qu'on va faire là, les gens ils disent tiens, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il fait. Comment les gens ils peuvent trouver cette information.
J'ai oublié de me nommer en fait, c'est ça. J'utilise un pseudonyme pour ma chaîne, c'est Genius Shot, c'est-à-dire G-I-L-N-I-U-S. Alors pour la petite historique, c'est juste un pseudonyme que j'avais sur des jeux en ligne et que j'ai gardé. Et c'est ça. Puis pour les personnes adeptes de la culture geek, mon avatar est un Mega Man, qui est un personnage de jeu vidéo avec une caméra à la main. Voilà, et donc la chaîne est très centrée sur le bleu, genre de choses, ça peut donner des petits repères. Et donc pour redonner le nom, c'est Genius, G-I-L-N-I-U-S, et Shot, comme le, à la fois comme le pistolet et comme le plan de cinéma. Voilà.
D'accord, parce que moi je suis utilisateur de YouTube de temps à autre, mais je vais chercher YouTube par rapport à un besoin pratique. C'est-à-dire que j'ai envie de démonter la porte de ma voiture ou la glace de ma voiture, bah, je vais chercher sur YouTube comment démonter la porte ou la glace de ma voiture. Est-ce que toi, dans ce que tu fais, tu t'inscris dans la même démarche ?
Alors non, parce que je suis une... Je parle beaucoup en termes de génération, je ne sais même pas si je suis un vrai représentant de ma génération, mais je dirais que YouTube sert autant le divertissement... que l'apprentissage, que effectivement le je sais pas comment appeler ça, le DIY, le construction, la non je
oui c'est ça oui c'est je dirais que c'est une approche méthodologique d'un travail. Alors oui. Après le mot en anglais je saurais pas
oui
te
non
dire,
mais c'est voilà. Parce que je trouvais pas le terme et c'est en fait pour ma génération, tout ce qui est génération Y et millennials, YouTube, c'est presque la télévision 2.0. C'est-à-dire que il y a une notion de divertissement qui est rentrée en jeu. C'est-à-dire que Internet, c'est pas juste là pour trouver les solutions à un problème. Ça l'est, mais de plus en plus, ça prend la place du divertissement. C'est-à-dire que, enfin, à titre personnel, j'allume que très rarement la télévision. Parce que je sais que je vais sur YouTube, je suis abonné à un certain nombre de chaînes qui me fournissent un contenu qui répond à mes attentes. Et il y a un spectre plus large pour se limiter juste à YouTube, hein, parce qu'après il y a Spotify ou Deezer pour la musique, il y a des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter qui pour certains constituent presque une substitution à l'apport d'informations. C'est-à-dire que certaines personnes dont j'ai fait partie, je le fais de moins en moins, s'informent uniquement via les vignettes des sites type France Télé, RTL, n'importe quel, il en faut un troisième, Europe 1, juste pour s'informer sans forcément lire les articles, sans forcément s'intéresser. Et du coup, YouTube, comme d'autres plateformes, sont plus des... J'utiliserais le mot agrégateur, c'est-à-dire qu'ils nous fournissent du contenu qui nous permet de nous satisfaire, comme la radio ou la télévision le font, mais d'une manière un peu différente, quoi. Je ne sais pas si ça répondait à la question.
Oui, ça répond à la question. Mais par contre, moi, je me posais la question. On est dans une commune rurale où très souvent on est confronté à la problématique du débit d'Internet, donc qui devrait se régler dans les années à venir, je pense.
Normalement. Je connais.
Voilà, et on s'aperçoit que dès qu'on veut de la qualité, parce qu'aujourd'hui, on est dans de la vision d'un film ou d'une émission qui est plutôt sur un écran large. on veut avoir de l'immersion. On veut avoir de l'immersion, c'est-à-dire qu'on veut quasiment rentrer dans l'écran. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, si on veut un gros débit, une grosse définition d'image, mais en fin de compte, la possibilité qu'on a sur nos petites communes fait que aujourd'hui, c'est saccadé, c'est en attente de charge, etc. Et on se retrouve dans l'impossibilité. Alors moi, ce que j'ai retrouvé sur YouTube, je dirais la grosse problématique, je dirais que c'est la définition du support. C'est-à-dire qu'on a un support qui est visuel, mais qui est adapté à un petit écran avec une distance de vision très courte. Et lorsqu'on a une transmission sur un écran de télé, avec aujourd'hui on est sur des standards à 120 cm ou 115 cm de diagonale, et là on va se retrouver avec quelque chose qui va avoir du grain, qui va pas être très beau en fin de compte. Est-ce que aujourd'hui le lien entre le problème c'est YouTube ou c'est notre débit internet?
Alors là c'est un aspect vraiment plus technique, c'est-à-dire de la qualité de... Parce que je me permets de reposer la question, du coup, c'est d'un point de vue plutôt technique, ou c'est-à-dire que est-ce que c'est lié aux gens qui diffusent du contenu sur YouTube?
Bah, nous, en fin de compte, en tant qu'utilisateur, oui. Je me place plutôt utilisateur, je veux dire que aujourd'hui j'ai la télévision haute oui. définition, donc quand je me mets devant mon écran, je veux retrouver la même qualité d'image. Quoi. Oui.
Enfin, moi, je mettrais dedans la problématique du fait que YouTube, c'est les gens qui créent pour les gens, dans l'absolu. Donc, c'est-à-dire que, déjà, le point de vue de base, c'est on peut pas demander aux gens d'avoir une caméra 4K chez eux pour créer du contenu. Il y a beaucoup de chaînes et ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de courbe de progression dans la création des contenus qui font que les gens vont s'améliorant et plus on obtient une audience, du coup, plus on se donne en exigence. C'est pas le cas de tout le monde. Mais plus on se donne, notamment dans tout ce qui est vulgarisation, l'idée c'est de quand même que ça soit plus compréhensible. Et en communication, on sait que la forme joue autant que le fond. Donc une vidéo de bonne qualité, c'est plus intéressant qu'une vidéo tournée avec le smartphone qui grésille et qui est plein cuté, beaucoup cuté parce que le téléphone n'a pas assez de batterie. C'est toujours le problème de... Parce que du coup, ici, la question, c'était notamment dans le milieu oral, le fait que la...
Par rapport à l'absence de débit sur notre réseau, hein, on sait qu'ici, on a un réseau à Saint-Laurent-du-Motet qui est relativement limité. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'en souffre régulièrement dans ma campagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nous propose plein de choses via Internet, mais en fin de compte, on est bloqué à ce fameux entonnoir qui fait que entre la transmission sur les serveurs et l'arrivée sur mon ordinateur, bien j'ai un tas de passerelles qui fait qu'à la fin, j'ai quelque chose qui ne me satisfait pas.
Oui.
Est-ce que ça va être un frein à YouTube ?
Il n'y a pas encore beaucoup de solutions par rapport à ça dans nos campagnes en règle générale. C'est qu'ils proposent en fait un certain nombre de débits pour plusieurs maisons et souvent la maison qui est en bout de fil se retrouve avec très peu de choses, etc. Donc aujourd'hui, commercialement, ils proposent des 4G box. Donc c'est comme l'utilisation d'un portable avec des données mobiles mais pour une maison. Donc je ne l'ai jamais essayé, je sais pas trop ce que ça donne, mais ce serait la solution entre guillemets. Bah, sans savoir exactement qu'est-ce que ça donne.
Alors techniquement, parce que c'est vrai qu'ici on se pose la question, à Saint-Laurent on n'a pas spécialement un réseau téléphonique non plus qui est tip-top, donc on a des zones qui sont pas spécialement identifiées comme des zones blanches, mais qui sont quand même des zones de captage limitées, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui le système de 4G ne peut pas fonctionner, parce qu'en fin de compte, on n'a pas non plus assez de débit de téléphone. Donc on va se retrouver dans des zones rurales comme ça, où le système 4G box, moi je connais quelqu'un qui l'utilise et ça fonctionne très très bien quand on est à proximité de réseau avec un débit constant et maximum. Ça fonctionne super super bien. Sauf que aujourd'hui, nous on n'a ni la liaison fibre, ni la... Voilà. Alors c'est vrai que c'est nous en tant que... En tant qu'élu, de faire en sorte que de promouvoir tout ça. Mais bon, comme on est confronté à des acteurs privés ou à des problèmes financiers pour mettre en œuvre tout ça, mais c'est vrai.
Faut commander un pylône.
Voilà. Voilà.
On prend un pylône, on le met à Saint-Laurent-du-Motet, on est bien centré et puis
voilà. C'est pas la place qui manque, quoi. C'est...
Exactement.
On prend un petit bout de champ quelque part. Et puis...
Le problème, c'est que le pylône, c'est pas nous qui l'installons. C'est-à-dire que nous, on peut proposer un terrain, mais on s'arrête là. Et c'est vrai que c'est la grosse difficulté. Et je pense que le frein dans nos communes rurales du développement d'Internet est aussi là.
Oui,
alors moi je voudrais aborder avec vous un autre point qui me trouve important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos communes rurales, on a, et à Saint-Laurent-du-Motet en particulier, on a toujours développé un monde associatif très très important. On a une vie communale qui est très riche. mais je pense qu'elle est très riche parce qu'on a fait du lien, de la communication, les gens se rencontrent, les gens se voient, les gens se parlent. Est-ce que le problème d'Internet, YouTube en est un parmi tant d'autres, ouais, va nous permettre de garder ce type de lien ?
Alors, moi, je suis obligé parti parce que je suis un très très grand partisan du oui. Et justement, je vais prendre un exemple très 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 local. Je parlais du casque et notamment du record qui a lieu en septembre. Et pour moi, le casque de Saint-Laurent-du-Motet, c'est peut-être un des meilleurs exemples d'une très bonne exploitation des réseaux sociaux, à savoir, le plus utilisé pour eux, c'est Facebook. Je veux pas me vendre des fleurs, mais j'ai un peu participé à ça dans le sens où moi, je répondais à leurs demandes vis-à-vis du contenu vidéo. Et en fait, ils ont ce côté dans leur communication qui est très décalé, qui est très à part de tout ce qui se fait dans le coin, où c'est, je place ça entre guillemets, assez perché. Et du coup, ça interpelle les gens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu bizarre, ça crée de l'intérêt. Et en même temps, ça fait rire les gens. Donc ça... Enfin, l'humour permet aussi de mieux transmettre le message. Et via les réseaux sociaux, ça intéresse plus de gens. Tiens, j'ai des gens qui le partagent et qui font en sorte que ça marche. D'un point de vue communication, je trouve que les réseaux sociaux permettent justement de toucher plus de monde. Après, il y a toujours le souci de ce qu'on appelle les bulles de filtre. C'est-à-dire que c'est... quand on touche plus ou moins tout le temps les mêmes personnes, on s'enferme aussi un peu dans une espèce de cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas forcément à grandir forcément les gens qu'on essaye de toucher. C'est un peu le souci des réseaux sociaux, je dirais, vis-à-vis des relations sur le tissu associatif. Il y a peut-être un peu ça qui peut jouer, mais pour moi, je dirais que le casque est un exemple d'une bonne exploitation des réseaux sociaux pour à la fois permettre à un événement d'exister, de prospérer. C'est-à-dire que, moi je sais que je suis toujours très curieux de ce qui va être annoncé parce qu'ils ont une image, ils ont, j'allais dire un caractère, mais je sais pas si c'est le mot qui correspond. Ils ont toute une communication qui est plutôt assez bien développée, qu'ils exploitent bien sur Facebook parce que Facebook... Met en avant tout ce qui sort un peu du lot et qui se partage assez rapidement. Typiquement, les vidéos de chat, c'est l'exemple typique de ce qui fait que ça marche bien. Après, est-ce que ça s'appliquerait à toutes les associations ? C'est toujours la question de savoir comment utiliser l'outil, quoi.
Alors, moi, on peut parler du casque. Le casque, c'est quelque chose de très important dans notre commune parce que c'est quelque chose qui fédère les habitants. Et nous, en tant qu'élus, on n'était pas à l'origine du casque, on était à l'origine d'une demande. Mmh. Une demande qui était de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans notre commune pour avoir un événement du moins fédérateur pour arriver à rassembler tout le monde. Je suis tout à fait d'accord que ça a été bien pris, et puis aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un événement qui est très très bien organisé. Par contre, moi je me rappelle au tout début des réunions qu'on faisait avec le casque, moi je fais partie des gens qui ont plutôt la communication verbale ou la communication, je dirais, de main à main, soit par des flyers ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça nous a un peu surpris, nous a laissé un peu perplexes sur le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, moi je ne suis pas spécialement dans les réseaux sociaux, donc je me suis dit, la communication des réseaux sociaux c'est très bien, mais comment on peut arriver à atteindre cette frange de population qui, je dirais peu importe l'âge, mais qui est dans une non-utilisation des réseaux sociaux.
Ah mais je suis tout à fait d'accord, sauf que disons que pour moi, Facebook, Twitter, n'importe quel autre réseau social, c'est un supplément. C'est-à-dire que, par exemple, l'affichage, ça a toujours marché et je pense que ça marchera toujours. Typiquement, pour reprendre le casque à nouveau, les affiches qui sont, je trouve qu'ils sont très colorées, très visuelles. On sait de quoi on parle quand on en voit une. Et les réseaux sociaux, c'est un supplément. Bonjour. C'est un supplément et ça enlève pas le fait que c'est toujours intéressant d'aller prospecter, de faire de la communication sur d'autres événements, en promenant des flyers et ce genre de choses. C'est juste que, disons, comme il y a eu une espèce de fossé générationnel entre deux types de publics qui n'ont pas été biberonnés aux mêmes méthodes de communication, on touche un spectre avec tout ce qui est affichage classique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Je cherche.
Après, il y a tous les documents papier. C'est vrai que et je te rejoins dans le sens où aujourd'hui, on s'aperçoit que le document papier, il a un intérêt pour un profil de personnage. Donc, c'est vrai, axé plutôt sur une génération qui n'a pas été travaillée depuis son plus jeune âge avec les appareils électroniques. Mais c'est pour ça que ce qui est intéressant et ce que tu montres et ce qu'on essaye de démontrer, c'est que pour moi, de passer à un tout papier est aussi, je dirais, préjudiciable pour le développement de l'événement que passer à un tout numérique. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'intérêt du mix des deux. Et je reviens sur cette partie-là parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on peut revendiquer le fait qu'à Saint-Laurent-du-Motay, on a un tissu associatif qui est très communicant. Et c'est vrai que je pense que c'est pas spécialement pour se jeter des fleurs, mais je pense qu'on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a tout un ensemble d'habitants qui sont très communicants. Et aujourd'hui, les événements de notre vie politique a fait que dans la communication, on a changé un petit peu nos méthodologies de communication. Et nous, on a été, je dirais, défendeurs d'un système communicant papier. Et aujourd'hui, on a réussi à pouvoir développer encore ce document papier qui, pour moi, est pas, par rapport, une discussion qu'on peut avoir, mais pour moi, c'est pas un préjudice à la cohésion et la construction de Meaux-sur-Loire, c'est plutôt un atout, parce que, je veux dire, si les petites communes sont bien dans leurs petites communes, elles seront bien aussi dans la grosse commune.
Oui.
Et je voudrais insister là-dessus, c'est pas pour faire de la politique, mais ce que je veux dire là, ça, c'est qu'on voit bien que si on arrive à tisser un tissu local très développé, automatiquement, l'ensemble de notre commune va grandir. C'est pas en disant la communication on l'a fait globale et puis rattachez-vous si vous avez envie. Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer. Et c'est pour ça que le réseau social est aussi quelque chose d'important, dans le sens que pour moi, c'est pas l'un doit prendre le pas sur l'autre, les deux doivent vivre en parallèle. Et automatiquement, si on en enlève un, on va se retrouver avec un manque qu'on n'arrivera pas à combler avec le second.
Que chaque génération, en fait, a son type de communication. C'est marrant parce que j'étais en formation cette semaine et on a parlé des différentes générations en utilisant le terme génération X, génération Y et génération Z. Et grosso modo, la génération X, c'est la génération avant les années 90 qui sont plus dans une idée de tout ce qui est papier, etc. Après, on a eu la génération Y qui est plus ma génération jusqu'aux années 2000. Et là, on est plus sur l'arrivée du PC, de ce qui est portable, etc. Et on a parlé après des années 2000 de la génération Z, où ils sont vraiment, vraiment là-dedans, baignés là-dedans. Et ils parlent aujourd'hui de la génération Alpha, qui, elle, se retrouve avec des enfants de 3 ans dans les poussettes avec des portables, qui sont directement avec ça. Donc, on est dans une évolution qui va très très vite, j'ai l'impression qu'on a du mal à contrôler tout le temps, qui peut dépasser. Ça crée pas mal de différences entre les générations et des fois on parle de barrières multimédia, de personnes qui ont du mal à utiliser l'outil informatique et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si on veut toucher pour un même événement l'ensemble des personnes, il va falloir utiliser différents types de communication pour pouvoir apporter des jeunes par le biais des réseaux Snap, Instagram, Facebook, mais aussi le tissu, l'utilisation de papier affichage pour avoir les personnes des autres types de générations.
Après,
Moi, ce que je voulais dire, c'est que faut pas forcer ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a des jeunes qui sont aussi dans cette génération qui devrait être informatique, mais qui souhaitent pas être dans l'informatique.
Oui. Ah bah après, c'est du contenu général.
Voilà. Non, mais tout à fait. Mais ce qui est important, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être garant de préserver tous les types de supports. C'est important parce que si à un moment donné on se dit bah voilà, on se dit on a 90% de génération informatique YouTube. Bon, on dit 90% c'est suffisant, on dit les 10% qui restent, on s'en occupe pas. Et je trouve que c'est préjudiciable pour l'ensemble de la cohésion de nos petites communes.
Et tout le monde n'a pas forcément la télé chez soi et ni l'utilisation informatique. Donc, et tout le monde a le droit d'avoir l'information pour un événement. Tout le monde peut venir participer. Quoi.
Je vais un peu répéter, mais du coup, c'est ce que j'allais dire. C'est le piège, c'est de pas tomber dans une espèce de valeur morale sur laquelle on pose en disant justement l'affichage. L'affichage papier c'est mieux ou le spot télé c'est mieux que les réseaux sociaux ou telle chose. Il y a une espèce de, je dirais, de fausse problématique à savoir est-ce que peut-être qu'il vient de la confrontation justement encore avec les deux pratiques, c'est-à-dire que comme les réseaux sociaux sont assez jeunes, c'est-à-dire que Facebook c'est 2005, ça fait un peu plus de 10 ans, c'est très très jeune quoi.
Et ça commence à devenir has-been.
Oui, c'est
pour les jeunes, et pourtant les générations d'avant commencent à l'utiliser. Je vois de plus en plus de personnes qui ont la quarantaine commencent à utiliser Facebook parce que ça commence à arriver. Et les jeunes s'en décrochent pour d'autres réseaux. C'est intéressant d'avoir la différence qui commence à se créer.
Et notamment, comme vous disiez, pour les communicants, il ne faut pas rentrer dans le piège de on va plutôt utiliser Facebook parce que de toute façon, on va faire du truc qui font le buzz et donc on va se faire partager. Donc ça va toucher les jeunes, ça va ramener des jeunes. Et du coup, on délaisse totalement le public habituel qui se... Enfin, moi, personnellement, il m'est arrivé des fois d'apprendre qu'un événement dans la commune arrivait parce que j'avais croisé un panneau sur la route ou parce que je me promène près d'un panneau d'affichage et ce genre de choses. Je suis tout à fait de votre avis sur le fait que faut pas, faut laisser la main libre à un peu tout le monde. Et puis, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec plus de possibilités. Après, la question de savoir les utiliser, c'est un autre problème, mais ce serait dommage de jouer sur une valeur... Voilà.
Moi, je voudrais juste amener un point sur YouTube, mais qui est d'une autre casquette que j'ai, qui est le domaine de l'enseignement. Moi, le problème de YouTube, ce que je trouve, c'est qu'on va montrer aux gens comment faire une activité, mais sans peut-être se prémunir du risque... qui peut avoir à lui-même cette activité. C'est un peu la discussion qu'on a pu avoir avant cet entretien en disant voilà, on montre comment réparer sa maison en électricité, comment réparer une partie du moteur de sa voiture. Donc le gars, il va suivre YouTube, il va faire ça. Voilà. Mais à un moment donné, je trouve que dans certains tutos, je pense qu'on appelle ça comme ça, on n'a pas la notion de dire attention. Là, on va être dans une phase de démontage et remontage qui a un risque peut-être pour le véhicule roulant, qui a un risque peut-être pour la sécurité d'incendie de la maison. Et moi, je suis confronté à quelques cas comme ça. On voit des gens qui arrivent dans des formations qui disent voilà. Est-ce que tu connais en électricité ? Non, j'y connais pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait déjà en électricité ? Oh là là, j'ai fait mon garage, j'ai fait la maison de mon frère, j'ai réparé une partie de la maison de mes parents, etc. Et tu t'aperçois que c'est des gens qui ont fabriqué, mais sans se soucier nullement ni de la réglementation, ni de l'organe de sécurité, parce qu'en fin de compte, ils ont vu comment mettre le fil dans le trou et comment serrer avec le tournevis. Et je trouve que c'est un danger de YouTube.
Alors, il y a eu un exemple très récemment. Alors par contre c'est une chaîne de vulgarisation scientifique pour la nommer Dr Nozman qui lui en fait ouvrait des géodes avec une scie circulaire et en fait il y a eu une image qui a gêné beaucoup de gens, c'est à dire que la personne qui tenait la géode pendant que lui la cisaillait n'avait pas de gants et était trop proche
de la lame.
Et il y a eu, vu que c'est une des chaînes YouTube de vulgarisation qui est très connue, vu qu'elle a à peu près 2 millions d'abonnés, donc ce qui est énorme.
Un peu plus que la tienne.
Oui, c'est genre beaucoup. 100 000 fois plus, à peu près. les gens sont revenus vers lui pour lui dire ce que tu as fait là, c'est hyper dangereux. Il aurait pu avoir des problèmes. Faut surtout pas faire ce que tu fais. Et donc du coup, il y a quand même une notion d'exemple et de représentation des gens. L'avantage de YouTube, c'est que voilà, c'est dès qu'il y a un public les gens sont pas devenus subitement débiles grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu m'excuses le terme, une connerie, les gens se rendent compte et apprennent à gérer. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi sur le domaine d'activité. Parce que c'est-à-dire que on est dans un modèle assez démocratique où c'est les gens qui parlent pour les gens, et des fois c'est juste des passionnés qui essayent d'interpeller d'autres passionnés sans avoir ce bagage de professionnalisme qu'il y a derrière. Il y a aussi des professionnels qui passent leur temps à vulgariser sur YouTube, mais c'est pas la même approche dans le travail, et on le sent. Sauf que sur YouTube, il y a deux modèles de réussite. C'est soit, du coup, comme à la télé, des productions qui sont construites, qui sont faites sur un rythme assez régulier, mais du coup qui fournissent cette espèce de bagage intellectuel qui est suffisant pour justifier telle ou telle chose, et du coup qui expliquent bien en amont, qui prennent leur temps de bien... Enfin, je veux dire, il y a une chaîne notamment comme Y Penser qui travaille sur une série de vidéos sur la physique quantique, qui est un thème assez lourd de la physique, et qui va vraiment à un rythme de vidéo assez échelonné, quoi. Et derrière, il y a des gens qui font des vlogs, qui parlent de leur vie, mais sans quasiment... Enfin, sous pas ou peu de filtres. Ce qui fait que c'est très sincère, c'est très... en gros, c'est one cut, c'est-à-dire que c'est tourné à la suite. Et il n'y a pas ce degré de qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et donc, du coup, ça s'applique aussi parce que ça part du bon intention. Je veux montrer ce que je fais, regardez comme je le fais bien. Sauf que souvent, il y a le contre-coup des gens qui s'y connaissent vraiment et qui viennent te dire non, on fait pas ça comme ça. On fait pas ça pour ça ou de cette raison-là. Et... Disons qu'il y a une potentialité à l'amélioration qu'il faut savoir récupérer. Même moi, dans ce que je fais, je fais super gaffe à ce que je raconte parce que ça engage des gens aussi qui regardent et qui s'y intéressent, et que du coup on se retrouve sur le problème des fausses informations et ce genre de choses.
Tout à fait.
Et donc du coup, disons que YouTube, comme c'est les gens qui créent les problèmes, et du coup c'est les gens qui créent aussi les solutions, il y a une potentialité à s'améliorer. Et pour répondre à la question, parce que du coup j'ai beaucoup dérivé, je dirais que la solution au problème posé du comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est bien fait, quand, parce que du coup vous êtes... professeur, c'est ça, vous êtes...
Formateur-enseignant, mais c'est pas grave.
Oui. L'enseignant, il est là derrière pour appuyer et pour expliquer aux gens fais plutôt comme ça au lieu de comme ça, tu vas te blesser, mets des gants, mais ce genre de choses, c'est plus...
Oui, moi je dirais plutôt l'enseignant qui est là, il est là pour expliquer les règles, mais je dirais que YouTube, il va commencer par la fin, c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, t'as une problématique et je te donne la solution pour la réparer. Ouais. L'enseignant, lui, il va partir des bases, c'est-à-dire qu'il va réapprendre des choses, qu'ils soient des mathématiques, des physiques, comment le problème s'est généré, que c'est créé, etc., d'où il vient. C'est-à-dire que l'approche est complètement différente. C'est-à-dire qu'on, d'un côté, l'enseignant, il va prendre l'approche par rapport à la naissance du problème, du produit, et éventuellement la partie dépannage après réparation, alors que les systèmes de tuto YouTube, ils vont, on est tous pareils, parce qu'on a, une problématique, donc on tape sur internet notre problématique et on essaye de trouver la solution, soit l'écrite, soit les visuels.
Oui.
Mais on n'est pas du tout dans la même démarche. Alors, moi je vais pas être trop long parce qu'il y a des gens qui souhaitent aussi à parler, mais je voudrais juste donner une autre petite information. Je suis aussi dans 360 degrés à l'ouest, qui va se déroulé au mois de octobre-novembre. Et donc, par rapport à ça, on a une séance qui va se dérouler à Bourgneuf, qui sera sur la communication via Internet de toutes les personnes qui sont dans des pays, voilà, dans des pays autres que la France. Donc c'est aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire que l'internet, je trouve aussi, c'est intéressant pour le voyage.
Oui.
On peut voyager tout en restant assis dans son fauteuil. Et c'est pas spécialement oui. moins intéressant que voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui on a évoqué plein de choses hein, ce matin, mais c'est aussi intéressant le voyage. Ouais. Le voyage via Internet et aussi voilà la, pour la dernière petite partie, la communication entre les gens qui se trouvent une famille postée sur un lieu et d'autres personnes qui sont dans un autre lieu. Je trouve que le système d'Internet et le système YouTube ou le système plutôt, je ne sais pas, on utilise Skype ou des choses comme ça.
Ah oui.
Donc là, c'est aussi intéressant avec le système de réseau Internet.
J'ai préparé là, pour le mois de mars et avril une série de 5 épisodes sur comment décortiquer les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire partir des données pour comprendre les interactions entre les gens via les nouveaux systèmes. Et à la fin, j'utilise... alors, sur l'épisode sur les réseaux sociaux, je raconte juste qu'en fait, Facebook, en soi, n'a rien inventé. C'est juste Internet qui a rajouté une dimension au rapport humain qui existait déjà avec les réseaux sociaux, parce qu'en soi, chaque personne est un réseau social à part entière. On a des liens un peu plus forts avec nos familles et nos amis, et des liens un peu plus larges avec nos connaissances et les personnes qu'on côtoie un peu moins. La seule différence, c'est que Internet a ramené le fait qu'une de ses connaissances peut habiter par exemple à Limoges, peut habiter à Moscou, peut habiter n'importe où. Et il y a ce côté aussi d'ouverture, c'est-à-dire que sur Internet, la frontière existe moins. Et les gens...
Enfin, juste un reproche que je fais à ça, ouais. C'est qu'on s'ouvre sur les autres, mais on se renferme sur soi-même. C'est-à-dire que les gens, ils ont plein d'amis, mais ils sont assis dans leur chaise, et puis ils ne vont jamais franchir le pas de leur porte. Et enfin, c'est vrai qu'on a une ouverture, enfin, moi c'est mon point de vue, hein. Donc on a une ouverture sur l'extérieur, mais on se ferme à la communication de ceux qui sont à côté. Ça peut être le danger.
Ouais. T'as 1200 amis et pour 10 personnes que tu vois réellement. Quoi.
Voilà.
Oui.
Mais on va s'arrêter là pour ce matin. Parce qu'après, on va enchaîner avec un tissu associatif de Saint-Laurent-du-Motet avec Escalembourg, deux personnes qui vont pouvoir nous présenter ça. Donc, je vous remercie d'être venu, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu.
Pas de souci.
Et
pas de problème non plus.
Et voilà, je vous remercie.
Bonne journée à tout le monde.